La toute première, eh bien ça, je voudrais savoir depuis combien de temps vous habitez à Orléans.
Alors, depuis toujours. Mmh. Et toujours, je suis né à Orléans, c'est pour faire raconter ma vie, en 1941, et j'ai fait mes études au lycée Potier, jusqu'en classe préparatoire des grandes écoles, mmh. en 58, non 59. Je suis rentré à l'École nationale de l'aviation civile à Orly en octobre 1960. Donc je suis parti d'Orléans à ce moment-là. Après, j'ai fait mes 3 ans d'études, mon service militaire, et j'ai encore fait une année en faculté à Paris. Et puis j'ai travaillé à Paris également, à Argenteuil, dans la banlieue. Et je suis revenu à Orléans au moment où je me suis marié, en juillet 67.
Est-ce que c'est surtout votre mariage qui vous a ramené à Orléans ou est-ce que c'était votre
Oui, il y a plusieurs raisons. Je travaillais chez Simca. Mmh. Enfin, mon école est une école d'ingénieurs électroniciens. Mmh. J'ai travaillé chez Simca dans l'industrie automobile. Ça n'avait aucun rapport parce que je voulais me lancer dans l'automobile. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. Et sur ce, je me suis marié. Alors, comme j'avais pas une place qui correspondait à ce que j'aurais pu avoir chez Simca, que j'avais essayé de chercher une situation à Paris, enfin dans différentes branches, puis ça n'a pas marché. J'ai décidé de revenir à Orléans pour me mettre professeur de maths, chose que j'avais toujours voulu faire, mais enfin, j'avais fait autre chose. Mmh. Et donc, il y avait cette raison-là, parce que ma femme faisait ses études ici, à Paris, elle n'aurait pas pu les continuer, à cause des déplacements, donc je suis rentré à Orléans pour ça.
Ah.
Et j'étais de professeur au lycée Potier.
Mmh. Et vous êtes à la source même depuis...
Alors, je suis à la source même. À ce moment-là, à la rentrée en octobre 67, donc, on m'a proposé une place, cette place que j'ai maintenant, qui est ingénieur gestionnaire des campus de l'Université mmh. d'Orléans-Tours. Parce qu'ils cherchaient quelqu'un de jeune, dynamique, qu'ils n'ont pas voulu recruter certainement par petites annonces. Alors, on m'a proposé cette place-là. Laquelle il a été difficile de refuser à cause de la différence de salaire considérable entre le salaire de professeur et cette place. Donc je suis ici, j'ai travaillé d'abord au rectorat d'Orléans,
oui.
Et puis je suis sur place maintenant depuis le mois d'août 68.
Et qu'est-ce que vous faites au juste?
Ici, ben, je suis chargé de... Ça s'appelle exactement gestion technique des installations des campus. Il faut faire en sorte que les installations extérieures au bâtiment soient en bon état, c'est-à-dire les routes, les espaces verts, les sous-bois, l'éclairage public, le téléphone, l'eau, et plus les questions de gardiennage, de circulation et de discipline.
Ça.
Et c'est... Oui, enfin, ça fait beaucoup de choses, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, d'une part, pas encore au point pour le moment, parce que mon service de gestion à cause de la réforme universitaire n'a pas encore d'existence financière, ce qui ne permet guère de faire quelque chose. Et d'autre part, faire de la discipline chez les étudiants, par exemple, il faut mieux marcher sur des œufs. Faire ça, non pas de loin, mais enfin, en faire le moins possible, finalement.
Non, d'un côté, c'est un rôle assez ambigu.
Ah oui, c'est un petit peu difficile, surtout pour le moment. Moi, je pense que ça va se... Les remous de l'année dernière vont se tasser, et que peut-être l'année prochaine, on retrouvera des conditions normales de ce côté-là. Mm.
Enfin, et dans vos autres fonctions, l'élément discipline.
Cela
ne se passe pas, mais à vous de me dire.
L'élément discipline est très faible pour le moment, puisque j'ai deux gardiens qui travaillent sur le campus, qui sont chargés normalement de faire en sorte que les étudiants, les professeurs également, qui ne sont pas non plus toujours disciplinés, donc tout le monde se gare sur les parkings et non pas n'importe où. Et puis, ma foi, c'est presque tout. On ne peut pas, étant donné qu'on n'a pas un rôle d'agent de police, on ne peut pas dire à quelqu'un, bah, vous roulez à 90, c'est limité à 50, ou bien ça, on ne peut pas. Alors, tant qu'il n'y a pas d'accident, ça va.
Donc c'est surtout matériel.
C'est surtout matériel, pratiquement. Et c'est matériel, alors
là, ça va.
C'est préférable. Sauf que pour le moment, je n'ai pas de crédit. Donc, par exemple, tout à l'heure, je viens de voir quelqu'un de la mairie d'Orléans. Comme je connais quelqu'un, je vais réussir à me faire réparer 2-3 trous que j'ai sur mes routes, sans que ça me coûte rien.
Ah bon ?
Donc, c'est le système D pour le moment. Sinon, au point de vue, par exemple, l'éclairage public, on a quelque chose qui marche très bien, mais comme j'ai pas d'argent, je suis en dette à l'EDF déjà de 3 ou 4 millions. Enfin, ça va... Ça ne durera pas, de toute façon, ça...
Il faut bien éclairer. C'est
démarrage. Oui, on éclaire, oui, mais enfin, il n'y a pas encore de textes qui font en sorte que des crédits sont donnés au service de gestion. Alors, soit des lettres commandées, comme quoi on doit tant, et puis on ne répond pas, on téléphone en disant qu'on ne peut pas. Mais que ça viendra.
Ah non. On faisait toujours pareil.
Oui, c'est un
petit peu. Et vous êtes responsable de tout le campus?
Alors oui, je suis responsable de tout le campus, mais... Peu de gens me connaissent, même parmi les étudiants. Il faut dire que je ne fais pas grand chose pour me faire connaître pour le moment, parce que je pourrais faire des réunions, ou bien alors, pour se faire connaître finalement, il suffit d'imposer certaines règles qui ne plaisent pas. Enfin, ça vite fait.
Oui.
Par exemple, dévier le circuit de car qui passe, qui abîme les routes, et puis qui ne doit pas, qui passe provisoirement. Enfin, pour le moment, moi je me réfère à des décision supérieure, c'est-à-dire le recteur ou bien le doyen de la fac des sciences, qui préfère ne pas faire dévier l'écart pour éviter, non pas des explosions, mais enfin des petites manifestations, pour éviter de donner aux étudiants des raisons de s'exciter. Alors on laisse faire, on changera peut-être ça pendant les vacances, on ne sait pas.
En fait, la question de transport va être assez... pour les étudiants ici.
Oui, je pense quand même que ils sont... C'est pas si mal que ça, parce que moi, vous voyez, de mon bureau, j'ai les cars qui passent devant et on n'attend pas si longtemps. Il y en a quand même pas mal. Il y en a tous les cars. Enfin, puis de toute façon, c'est une chose dont je peux m'occuper. Si, par exemple, on trouve qu'il n'y a pas assez de cars, bien, on pourra me demander à moi de m'occuper avec la TREC, qui est les transporteurs orléanais, de voir si on ne peut pas en rajouter un à telles heures. Bon, ça ne s'est pas encore produit, mais ça peut se produire. Mais enfin, pour le moment, il y en a tous les quarts d'heure, aux heures de pointe, et en général, toutes les demi-heures. Et ma foi, comme il y a quand même beaucoup de voitures, sur 4000 étudiants qu'on a ici, il y a certainement 2000 voitures, plus. Ben, évidemment, il y en a toujours qui n'ont pas de voiture. Hein. Je crois que, enfin, les problèmes, c'est surtout les problèmes qu'ont les étudiants, je crois, c'est l'isolement ici. Il n'y a pas d'endroit pour se réunir. Endroit sympa, oui, un café à Beauchamp, à Orléans 2, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est une ville nouvelle, vraiment. Et puis après, ça ferme. Et même à Orléans, Orléans même n'est pas encore redevenue une ville universitaire, à mon avis. Comme Belette Tours, et c'est pas, je crois, si vous êtes promené à Orléans après 9-10 heures du soir, c'est vide. Hein. Vous essayerez.
Non, ah, mais après, je trouve que ça va quand même pour circuler parce que
il y a personne dans les rues. Seulement, la contrepartie, c'est qu'on ne sait pas où aller, et on peut à la rigueur aller au cinéma, enfin pour les étudiants, par quelqu'un que je dis, on peut aller au cinéma. Bah, à la sortie, il y a un café, il y a un ou deux cafés qui sont ouverts, mais enfin, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas... C'est pas encore... c'est pas sympa, c'est pas, je sais pas, c'est même à Tours. Il y a une vie étudiante beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants. Il y en a 9 ou 10 000 à Orléans, il n'y en a encore que 4 000. Et puis c'est, la vie universitaire est beaucoup plus, beaucoup mieux implantée, ce qui fait qu'il y a quelques boîtes, et puis il y a des tas de cafés, et puis il y a toute une différence. Parce que je m'occupe également du campus de Tours.
Ah oui.
Alors donc je vais à Tours et je vois, et par exemple, une différence qui est frappante, c'est la façon de s'habiller.
Mm-hmm.
Hein? On voit ça, et moi je ne crois pas que ce soit une différence de moyens financiers qui fasse ça, c'est une différence de goût et de milieu dans lequel on vit. Par exemple à Paris, c'est bon, pour dire que tous les étudiants sont bien habillés, loin de là. Mais enfin, on voit, il y a des tas de des filles qui sont jolies, qui sont bien arrangées, peut-être pas pour grand-chose, mais enfin, qui font des efforts. Ben vraiment, puisque ma femme était étudiante à Orléans, ben moi j'étais un petit peu étudiant, enfin, la fin d'études à Paris, il y avait une différence considérable. À Orléans, on avait l'impression que les filles sortaient de leur campagne avec leurs sabots, pas maquillées, rien du tout, enfin... Quand on est à 19 ans, un peu des boutons sur la figure, un petit peu, vous voyez, pas soigné. Et à Tours, bah Tours c'est entre les deux.
Oui.
Hein, à Tours, ça se rapproche de Paris, c'est les gens font des efforts.
Est-ce que c'était vraiment quelque chose d'inhérent à Orléans-la-Source, ou est-ce que c'était peut-être le problème qu'on retrouve dans toutes les universités nouvelles en Angleterre?
Je crois que c'est...
Au début, c'est un chantier, c'est de la boue.
Oui, ah oui, en Marie, il y a certainement ça, effectivement. Oui. Il faut reconnaître qu'il y a sûrement... D'ailleurs, pour le moment, ça progresse maintenant de ce côté-là, si vous voulez. Je fais pas spécialement attention. Non, pas des chantiers, mais enfin, non, de la tenue des gens, oui. Oui, effectivement, il y avait la création, il y avait le fait que c'était boueux, donc on n'allait pas se mettre en escarpin ou en chaussures vernies, il fallait venir en bottes. Et à ce moment-là, pour ne pas se salir, ben, ma foi, on se mettait avec des habits qui ne peinaient pas. Et puis alors, troisième fait, le fait que les gens qui font leurs études à Orléans ne sont pas dépaysés. Les Orléanais font leurs études à Orléans, bien la population du département ou des environs. Et je crois que c'est un fait, je suis persuadé que les étudiants les mêmes qui auraient été à Paris n'auraient pas été habillés pareil. Enfin, vous voyez, je vous parle de cet événement-là qui ne m'a pas spécialement marqué, si vous voulez, mais en fait, c'est parce qu'on en parle.
Est-ce qu'il y aurait des indices du même genre sur le plan intellectuel? Enfin non, je voudrais vous poser une autre question avant.
Oui.
D'où est-ce que vous prenez vos étudiants? Quel est le pourcentage d'étudiants d'Orléans de la région?
Alors là, je ne peux pas vous répondre exactement parce que c'est au service de scolarité.
Ouais,
je crois quand même qu'il y en a beaucoup de la région.
Mm.
Hein. Alors on va partir à l'envers, c'est-à-dire je pense qu'il y a à peu près 10% d'étrangers, que ce soit des Vietnamiens, même malgaches ou des Noirs, peut-être un peu plus cette année. De l'extérieur, peut-être une dizaine de pourcents de Paris. Vous voyez, je crois, enfin, on peut facilement compter au moins 70 à 80%, non pas d'Orléans même, enfin de la région.
Ah, okay.
C'est-à-dire de la région centre, qui peuvent aller jusqu'à Tours, mais enfin, du Cher, de Chartres, enfin, de la Renoir, peut-être de l'Agnan, enfin, un petit peu partout. Donc, quand même, des étudiants qui viennent de petites villes. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que j'ai pu relever ce fait quand je vous parle.
Est-ce que c'est une tendance générale que les étudiants aillent dans les universités de la région, mis à part le côté de Paris, le cas de Paris qui est spécial, pas mis à part. Est-ce que c'est un phénomène du centre ou est-ce que c'est un phénomène général?
Qu'ils aillent chez eux plutôt qu'au père. Je crois que maintenant c'est obligatoire, surtout.
Ah bon?
Ah oui, oui, oui. Par exemple, à Orléans, ce n'est plus possible, à moins de se faire pistonner, on peut toujours y arriver, oui. Évidemment, ou bien de prendre une chambre, de dire qu'on habite chez sa tante, enfin, faire des trucs.
Oui.
On n'a pas le droit, quelqu'un qui veut faire ses études de sciences, par exemple, n'a pas le droit d'aller à Paris.
Ah bon?
Ah non. Et non, parce que
si vous voulez aller à Montpellier, par exemple.
Comment?
Si vous voulez aller non pas à Paris, mais
à Montpellier.
entre les universités de province, est-ce
que je crois qu'il pourrait, mais toujours en tournant un peu le règlement. Oui. Parce que on veut éviter le fait de suivre une université qui se crée comme celle-ci, évidemment n'est pas, n'a pas de forcément de très bons professeurs. On ne sait pas quels sont les professeurs. Elle n'a pas, je veux dire, de, je trouve plus le mot, de réputation établie, oui, si vous voulez, dans tel domaine ou dans tel autre. Donc, il y a des étudiants qui, ou des parents des fois, qui disent « Non, non, moi je préfère que mon fils qui, par exemple, a eu ma TLM avec mention bien, là ils n'ont pas cette université d'Orléans où il sera mal, mal suivi, parce que, etc. Moi je préfère qu'il aille à Paris. Il y a l'attirance de Paris. Ou bien alors, en médecine, ben, je préférerais qu'il aille non pas à Tours, c'est moyen, bon, qu'il aille, je crois que c'est Montpellier, effectivement, que l'université de la faculté de médecine est renommée. Alors, il y a deux choses, évidemment. Ou bien on fait une concurrence entre les différentes universités, c'est ce qui est envisagé, et auquel cas, les universités nouvelles risquent de, on risque de construire et puis d'avoir personne. Donc on oblige quand même un peu les gens à venir. Et puis ma foi, je crois quand même que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de parents, parce que les parents qui ont des élèves très doués, qui veulent qu'ils aillent à l'extérieur, sont quand même peu nombreux, les élèves, les étudiants doués, très doués. Donc la moyenne préfère dire, ah bah dis donc, tu vas aller faire ton certificat d'histoire, ou tu vas aller faire ta licence, tu vas la faire à Orléans, je ne peux pas tirer à Paris, il faudra qu'on paye la chambre, il faudra qu'on paye ça, il faudra qu'on paye ça, les transports, donc bah, tu seras à Orléans, et donc ça nous coûtera moins cher. Ça, c'est évidemment un élément qui compte beaucoup.
J'aimerais savoir un peu sur le système des bourses, parce que...
Alors les bourses, oui, je sais un petit peu comment ça se passe, c'est... Parce que moi, je m'intéresse un peu aux questions financières. j'ai appris récemment, parce qu'au rectorat, j'avais fait la connaissance du chef du service des bourses. Alors, il y a eu un changement de système entre l'année dernière et cette année. Auparavant, il y avait un comité de bourses, je ne sais pas, qui se réunissait, une commission, qui décidait, bon, où dans le service des bourses, on voyait... Un dossier était déposé, on voyait un tel, bon, en rembourse, on décidait non pas au pif, mais en tenant compte de certains correctifs. Qui sont vous savez qu'en France, c'est lié aux impôts, tout simplement. Si on vous a... Alors les impôts, il y a deux catégories de Français, dans le système des impôts, il y a les non-salariés et les salariés. Alors, les salariés, eux, on touche donc leur traitement, qui est déclaré intégralement à la direction des impôts. Donc, sur les déclarations d'impôts, on ne peut pas en tirer un centime. Et on se retrouve à la fin de la colonne avec un revenu imposable qui est effectivement celui que vous devez déclarer. Les catégories qui non salariés, les commerçants, les artisans, les professions libérales, eux peuvent au contraire, on ne peut pas les contrôler, les agriculteurs, et ils mettent non pas ce qu'ils veulent, pour pas exagérer, mais enfin, tout le monde sait, et il y a des correctifs pour ça d'ailleurs, tout le monde sait que si un agriculteur déclare tant, ben c'est qu'il a gagné deux fois plus, trois fois plus, ou un commerçant, etc. Et on en parle beaucoup actuellement en France, hein, des réformes des impôts, parce que c'est un problème difficile. Alors, les bourses sont accordées suivant le revenu imposable. Donc vous voyez qu'il y avait deux différences considérables entre le revenu imposable d'un salarié et le revenu imposable, par exemple, d'un non-salarié qui, à taux égal, ne représente absolument pas la même chose. Alors, le service des bourses, lui, faisait une correction là-dessus. Il disait, bon, un tel fils de commerçant, bon, ça va, hein, il déclare tant, bon, ben, il n'aura pas de bourse parce que on ne connaît pas, mais enfin, on se doute qu'il vient en cours avec une 404 ou avec une petite Triomphe ou une petite Maurice ou une deux chevaux. Par contre, un tel salarié, bon, ben, il est. Alors il y avait des barèmes, hein. Bon, il est quand même, il est au-dessus du barème, il ne devrait pas en avoir, mais tant qu'à donner, on va donner plutôt à celui-là qu'à un tel autre. Et les décisions n'étaient pas rendues publiques. On vous disait, vous avez une bourse de temps, vous n'avez pas de bourse, on ne pouvait pas savoir pourquoi. Alors que depuis la réforme d'Edgar Faure, maintenant, on est obligé de dire pourquoi un tel a une bourse, pourquoi il n'a pas de bourse. Donc, on a fait, étant donné qu'on est la seule, le seul critère dont on dispose, c'est toujours le revenu imposable, mm-hmm. Eh bien, maintenant, à revenu imposable égal, le fils d'un salarié ou le fils d'un non-salarié a une bourse. Ce qui revient au fait suivant, c'est que, étant donné que les non-salariés sont toujours nombreux, et puis déclarent toujours de moins en moins, toujours peu, eh bien, ce sont eux qui vont avoir des bourses, c'est-à-dire les fils d'agriculteurs, les fils de commerçants et de professions libérales. Et les enfants de salariés, même des gens qui n'ont pas grand-chose, vont se retrouver sans bourse. Et puisqu'il y aura plus ce fameux correctif qui était possible quand c'était secret. Voilà ce qu'on m'a expliqué sur les bourses. C'est le chef du service des bourses qui m'a expliqué ça. Sinon, ce qu'on peut en dire, je crois quand même qu'il y en a beaucoup. J'ai cru... Non, je vais dire une bêtise, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais même pas combien il y a d'étudiants en France. 900 000 ?
Ah non, pas encore.
Non, pas encore. 6 ou 700, non ?
Je crois qu'on prévoit dans les 800 000 pour 89.
Ah bah oui, alors, vous savez, Tom, parce que je sais qu'il y en a déjà 150 000 à Paris. Oui, oui, remarquez, c'est pas gênant. Non, mais je crois qu'il y a, il y a beaucoup de bourses. Hein, ça a triplé le nombre de bourses, là, en un an ou deux.
Ah oui ? Oui. Vous savez, est-ce que vous pouvez dire à peu près quel serait le montant d'une bourse moyenne?
Alors, une bourse moyenne, je peux vous dire que moi, quand j'étais à mon école d'aviation civile, j'ai eu une bourse, mon père étant décédé, et elle était du montant maximum possible. Mmh. Eh bien, ça faisait environ 3000 francs. C'est-à-dire, divisé par 9 ou 10 mois de scolarité, ça faisait à peu près 300 francs par mois, les 30 000. Mmh. Mais c'était en 62-63. Mmh. Alors je crois qu'actuellement, le taux maximum doit être à 4 500 ou 5 000 francs, à peu près. Donc un taux moyen, si vous voulez, peut-être de 3 000 francs, le taux que j'avais, moi, à cette époque-là.
Ah oui.
Avec les études, enfin, si vous voulez une comparaison, par exemple, un étudiant qui est logé en chambre universitaire paye 90 francs par mois par rapport à ses 300 francs qui touche, par exemple. S'il est logé en ville, il paye 150 francs, donc ça fait la moitié de sa bourse moyenne, si on accepte le chiffre.
Oui.
Après, il faut toujours que les parents, évidemment, participent. Je crois qu'ils le font, puisque, et on voit. On voit beaucoup de voitures. Ne serait-ce qu'à cause de cet élément-là.
Oui.
Sinon, ben, je crois que des étudiants se débrouillent comme on a toujours fait, comme j'ai fait moi-même, à donner des leçons, ouais. à corriger des copies, bien bricoler, travailler à mi-temps, ou bien pendant les mois d'été, ben, travailler dans des entreprises qu'elles manquent, comme manœuvre. Ouais. Ben, des barbeurs, tout ce qu'on veut.
Alors, vous êtes en plein dans l'enseignement supérieur.
Oui.
Je vois que vous avez au moins un enfant.
Absolument, on l'entend.
Un enfant également?
Un enfant, non, un seul. Je suis marié que depuis un an et demi.
Ah bon. Alors, il est encore tout neuf.
Ah oui, oui.
Est-ce que vous envisagez des changements dans l'éducation du monde qui sera centré à lui?
Ah, alors là, il faut vous dire une chose, c'est que j'ai très peu parlé, et d'habitude je parle beaucoup plus si on me demande de me raconter ma vie, parce que c'est un peu ce que vous m'avez demandé au début. Je parle beaucoup plus de mes études qui m'ont amené où je suis maintenant, mais où je n'ai jamais su ce que je voulais faire exactement, il n'y avait rien qui m'attirait, puisque j'étais doué pour le piano, mon père était prof de musique, j'ai fait des professeurs de musique, professeur de gym, professeur d'histoire, ensuite de maths, pharmacien, ingénieur travaux publics, pilote de ligne. Mon école au départ aurait dû m'amener à pilote de ligne. Finalement, je suis ingénieur, télécommunication, ça ne me plaisait pas du tout, ce qui explique que j'ai voulu me reconvertir dans l'automobile, où ça n'a pas marché. À ce moment-là, je suis revenu à professeur, et de professeur, non pas par piston, mais enfin par connaissance, je suis arrivé à cette place que j'ai actuellement. J'envisage actuellement une reconversion à partir d'ici. Mm-hmm. Alors, c'est une reconversion parce que, vous voyez, dans un grand nombre de métiers que j'avais envisagé, il y avait des professorats ou bien un métier un peu libéral où on fait, disons, si on travaille, par exemple, un professeur de maths qui donne des leçons, il travaille, mais ça lui rapporte automatiquement. Aussitôt, un salarié qui travaille beaucoup, ça lui rapporte à plus longue échéance, mais enfin, il fait toujours le même nombre d'heures de travail. 8h midi, 2h, 6h. Hein? Un professeur, si je voulais corriger mes copies, puisque j'y étais pendant 2 mois, à 9h du soir, personne ne m'empêche de corriger mes copies à 9h du soir et de faire mes courses de 2h à 5h, ou bien d'aller me promener, d'aller faire du bateau à voile, puisque je suis sportif, ou d'aller, sans compter le nombre d'heures, comme un professeur, qui était différent. Alors, deuxième élément qui justifie ma la reconversion, je pense que faire des études c'est bien, mais il faut avoir pour réussir ensuite dans la vie, pour se faire une belle situation en tant qu'ingénieur, salarié, il faut d'une part travailler beaucoup pour quelqu'un. Pour une chose à laquelle on n'est pas directement intéressé tout de suite, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, ça ne me convient pas. Vous voyez, travailler, faire des heures supplémentaires pour se dire je serai augmenté dans 3 mois ou je vais pouvoir, je vais passer, ça me va pas ça. Et puis alors je pense surtout que ici, j'ai une place qui est d'une part aléatoire, parce que je ne suis pas fonctionnaire mais contractuel. Et d'autre part, avec peu de un éventail de salaire qui ne montera pas beaucoup.
Oui.
Alors, j'ai donc, d'autre part, j'ai toujours pensé que les commerçants étaient possibles de gagner de l'argent en étant commerçant. Et j'ai donc monté, il y a 4 mois, une affaire commerciale, un pressing, où la personne qui m'a cherché m'a trouvé l'autre jour. Je sais pas son nom, un monsieur qui ressemble un peu à Peter Townsend.
Ah oui, monsieur Hubert.
Oui, peut-être, je sais pas. Alors, il a cru que j'étais commerçant à ce moment-là.
Ah,
alors donc, j'ai monté cette affaire, qui est un pressing, mini-pressing, libre-service. C'est-à-dire, on vient avec 4 kilos de vêtements. Vous connaissez?
Je cherche depuis qu'on est arrivé à Orléans.
Vous en cherchez un?
Ouais.
Je pense bien. Vous la transmettez à tout le monde. J'ai monté ça avec Westinghouse.
Oui.
J'ai pris beaucoup de risques, d'ailleurs, puisque j'avais très peu de capitaux. C'était au moment de la dévaluation, ça m'a peut-être... Enfin, au moment de la dévaluation,
de
la non-dévaluation, ça m'a un peu précipité. Je ne regrette pas, mais enfin, ça va coller et c'est tant mieux. Alors, j'ai monté ça. Donc, vous voyez comment j'envisage une reconversion éventuelle d'ici, à mon avis, entre 5 et 10 ans qui viennent. Parce que je pense que ici, je resterai. Je suis. En supposant qu'un recteur, le recteur change, ou qu'on veuille prendre ma place, on viendra. Et compte tenu de mon expérience, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Alors. Donc j'ai monté ce truc-là pour avoir un point de chute. Et puis alors d'autre part, je suis persuadé que les études c'est bien, mais que si on a un peu de dynamisme si on choisit quelque chose d'une branche intelligente, on doit arriver à faire quelque chose. J'ai toujours vu moi des... Au moment où mes études n'allaient pas très bien, il a été envisagé que je sois garagiste. Ça me plaisait, et ça m'aurait très bien été, certainement. Et j'ai vu des tas de gens qui sont installés avec rien du tout, avec un capital lamentable, rien du tout, marchand de voitures d'occasion. Et puis ces gens-là, 3 ans après, ils n'ont pas une fortune. Enfin, ils ont en stock 80 voitures d'occasion, leur affaire tourne, donc ils ont fait du capital et ils s'agrandissent et ils font un atelier de ci, un atelier de ça. Quelque chose qui est absolument impossible dans le métier de salarié et d'être salarié, votre salaire augmente, mais vous ne pouvez pas créer une entreprise à vous, évidemment avec tous les risques que ça comporte. Hein. Vous êtes limité, vous restez limité. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette affaire, qui est tout petit pour le moment, mais que j'envisage d'agrandir, de développer, de faire autre chose, quand il y aura des bénéfices, enfin, quand j'aurai amorti mes investissements actuels, qui étaient importants. Alors, la question que vous m'aviez posée, c'était ce que j'envisageais pour mon enfant.
Ou si vous prévoyez des changements d'ici là, sans que vous-même vous envisagiez des choses précises, oui. Soit de votre côté, soit du côté extérieur.
Ben, comme changement, à quel sujet pour moi, par exemple, c'est ce que je viens de dire, donc, vous voyez.
Oui, vous avez expliqué pour vous oui. Et pour lui.
Alors pour lui, ben, ma foi, je crois que je lui ferai faire quand même des solides études. Mmh. Évidemment, ça dépendra essentiellement s'il est doué. J'essaierai. Il y a une chose qui n'a pas eu lieu pour moi, qui aurait été certainement très difficile, c'est que ça aurait été de faire une orientation scolaire valable. C'est-à-dire dire, bon, ben, on vous fait passer peut-être 2 jours, 3 jours de test. Oui. Seulement, on en déduit que vous êtes doué pour faire ça et il y a cette chose-là qui vous plaît. Je ne sais toujours pas ce qui me plaît. Finalement, commerçant, ça ne me déplaît pas, vous voyez. On aurait peut-être trouvé ça. Auquel cas, les études que j'ai faites qui n'ont pas servi à grand-chose quand même, puisque j'ai fait des études électroniciens, je suis incapable de tripoter un poste transistor quelconque ou une télévision, mais ben, absolument rien du tout.
C'est trop simple.
La radio, c'est très simple. Donc, ça ne m'a pas servi à grand chose. Après, j'ai fait 2 certificats mécaniques et métallurgie. Ça m'a donné une petite culture générale là-dessus, mais qui ne me sert pas à grand chose non plus, à mon avis. Et donc, j'ai un peu perdu mon temps. Pas forcément, parce qu'à ce moment-là, j'ai pu me cultiver. Je sortais, j'allais au théâtre. J'étais quand même pas dans un milieu. J'étais dans un milieu d'un certain niveau intellectuel, donc il y avait une osmose permanente, donc c'est certainement pas perdu. Puis d'autre part, je m'en suis pas trop fait pendant mes études, donc c'était un moment agréable. Mmh. Alors pour lui, ben, s'il est doué, ma foi, alors donc j'espère qu'on pourra trouver pour lui une orientation qui lui plaise. Je sais que j'influencerai, les parents influencent toujours leurs enfants, souvent pas dans le sens qu'ils voudraient d'ailleurs, parce qu'ils rabâchent tellement quelque chose que c'est le contraire qui se passe. C'est ce qui s'est passé un peu pour moi, parce que mon père me parlait toujours de médecine, seulement il nous en a dégoûté en nous disant oui, mais les médecins, avec toutes les opérations, les cadavres, on nous a dégoûté de ça. Ça n'aurait pas été, je pense. Enfin, ça aurait pu être autre chose. Alors, si on arrive à trouver quelque chose qui lui convient, je pense que ça sera tant mieux. S'il n'est pas doué pour les études, étant donné que j'espère que mon affaire de pressing prendra de l'importance, j'aurai toujours ça éventuellement pour le caser. D'autre part, le fait que je sois de la bourgeoisie orléanaise, c'est un élément qui jouera également, parce que même si on a quelqu'un qui n'est pas très doué, on arrivera toujours à le placer quelque part par relation, ce qui n'est pas tout à fait normal peut-être, enfin c'est ce qui se produit, à mon avis ce qui se produira toujours. Alors dans le choix de profession, je crois que j'insisterai. Il faut dire que moi je suis un petit peu trop porté sur ce fait-là, c'est sur le côté financier de la profession. Alors il y a beaucoup de gens, j'ai une belle-sœur particulièrement qui elle s'en fiche complètement, qui est très gentille, très intellectuelle, enfin qui est très cultivée, plus jeune que ma femme. Et elle, elle me charrie un peu là-dessus, que je suis trop porté là-dessus. Bon. Mais je dois reconnaître que elle, c'est un problème dont elle ne se rend pas compte actuellement, puisque son père étant médecin et gagnant plus que largement sa vie, ils n'ont jamais manqué de rien, et ils n'ont jamais eu à se priver ou à s'en faire. Donc c'est un problème qu'ils ne connaissent pas. Et je crois que dans le choix d'une profession, le côté financier est plus que très important, parce que moi je sais personnellement que c'était un élément très important, et que je crois qu'un ingénieur salarié, c'est vraiment pas là qu'il faut s'engager pour avoir une rémunération importante. Alors s'il n'est pas doué, ben s'il est quand même travailleur, enfin, on verra ce qu'il sait faire, ce qu'il saura faire, ce qui l'intéressera, eh bien, on peut créer tout un tas de choses qui, avec du travail, qui prospèrent avec du travail. Alors, de toute façon, je vois plutôt mes parents ayant... Moi, j'ai vu tous les avantages qu'on pouvait avoir de profession libérale, puisque, comme je vous l'ai dit, mon père était professeur de musique, ma mère était professeure de maths. Bien, je pense que c'est dans ce genre de situation que on essaiera de montrer les avantages plutôt que d'être gratte papier quelque part ou avec une vue non pas bornée mais enfin un petit peu rétrécie des événements et de la vie. J'espère. Je crois que c'est l'esprit scientifique, mes idées en général sont assez cohérentes, puisque je crois que, je n'ai jamais fait d'études sociologiques ni d'études de psychologie, je crois quand même que la principale direction, c'est ce côté financier de la vie, qui est certainement exagéré chez moi, mais qui, sur lequel tout s'articule. Mm-hmm.
Nous avons parlé de vous, de votre fils. Est-ce que votre femme a une profession?
Alors, elle n'a pas encore fini ses études. Ah. Elle est donc étudiante ici. Oui. Vous savez, on est revenu à Orléans. Enfin, c'était un des éléments de mon tour à Orléans. Oui. Elle est étudiante et elle fait sa maîtrise de chimie.
Ah oui.
Sans être absolument... Elle a été un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune idée sur ses études à faire, donc elle a suivi normalement jusqu'en mathélem. On l'avait mise en mathélem. Ensuite, elle a choisi par élimination, ce qui était possible de faire en faculté. Elle a fait à ce moment-là SPCN, c'est-à-dire s'est dirigée vers les sciences chimie et sciences naturelles, physique, chimie, sciences naturelles. Ensuite, elle a toujours choisi par élimination, puisqu'elle manquait un peu de moyens au point de vue maths, et elle en est arrivée, donc elle n'a plus qu'un certificat passé cette année, et à ce moment-là, elle aura une maîtrise de chimie, avec un dernier certificat de biologie, mais elle envisage, d'une part, moi j'avais toujours pensé que ce qui était idéal pour une femme, c'était d'être professeur. Je ne crois pas que ça l'emballait, plus le temps passe, plus je me rends compte que une envie de travailler, et donc elle s'occupera surtout du pressing, comme elle s'en occupe un peu le mardi après-midi, puisque la personne qui tient le magasin a sa demi-journée de congé ce jour-là. Alors c'est elle qui tient le mardi après-midi, et l'année prochaine, étant donné qu'on espère qu'on est en progression, puisque c'est une affaire qui vient d'être créée, il faudra sûrement être deux. Plus souvent que maintenant, donc elle s'en occupera un peu plus. Mais je crois que si on la laissait faire, elle ne ferait rien.
Ah bon?
Oui. Elle s'occupe du gamin, on envisage d'en avoir un deuxième, donc après ce sont des choses qui s'embrayent les unes dans les autres, et puis un gamin, deux gamins, puis il faut les conduire à l'école, et puis on passe beaucoup de temps à s'en occuper de toute façon. Alors, moi, Ça me désole, ça me, non, ça ne me désole pas spécialement, mais enfin, j'avoue, j'aurais préféré avoir une femme qui travaillait toujours, du côté financier de la chose. Alors, en tant que professeur, je pensais que c'était bien, parce qu'un professeur est quand même souvent chez lui, il a 18 heures de cours. Étant donné ma place dans l'enseignement supérieur, elle aurait pu être, moi étant ici, enfin nous étant ici, elle aurait pu être au lycée mixte de la Source, qui est donc à 500 mètres. Et ça aurait été facile, enfin on a les étudiants pour garder les enfants, et on aurait pu donc avoir quelque chose de bien organisé. Si vous
écoutez, avec toutes ces occupations, est-ce qu'il vous reste du temps libre?
Bien écoutez, j'ai encore d'autres occupations qui sont... Alors donc, j'ai mon travail de 8h à midi, de 2h à 6h. Je m'occupe du magasin, il faut reconnaître, un petit peu pendant les heures de travail, puisque je suis très libre. Je ne suis pas du tout supervisé, et j'ai, comme je vous ai dit, malgré tout, ça démarre, et j'ai pas un gros travail. Donc, j'ai... deux points de chute, j'ai ici, et puis le rectorat d'Orléans où j'étais avant et où j'ai toujours un bureau, où je reçois un peu de courrier, où j'ai toujours des renseignements à demander pour la paye de mes employés, pour des concours d'ouvriers professionnels ou pour des tas de choses. Alors donc, à ma foi, d'Orléans à la Source, je m'arrête au magasin pendant un quart d'heure, ou bien je vais voir une entreprise pour acheter des poteaux, pour acheter du chlorate, ce dont je m'occupais tout à l'heure, pour désherber, enfin pour faire des trucs. Puis entre temps, ben, je vais m'occuper un peu de ma publicité ou je m'occupe d'aller payer un tel pour le magasin. Donc, mon activité du magasin, après, elle m'occupe plutôt le soir, enfin pas tous les soirs, on ferme à 7h30. Alors, ça m'occupe surtout le samedi, je ne travaille pas ici, et puis, ben, le soir, des fois jusqu'à 7h, 7h15. Alors, j'ai conservé du temps où j'étais étudiant, j'ai conservé un petit travail supplémentaire, je suis correcteur de copie dans une école par correspondance. Alors ça, c'est un travail un peu saisonnier, si vous voulez, vacances de Noël, évidemment. Le deuxième trimestre, c'est un peu étalé jusqu'aux vacances de Pâques, et pendant les vacances de Pâques. Et puis, les mois de vacances pendant l'été également. Alors, c'est le genre de travail que j'ai conservé toujours quand j'étais étudiant, que j'ai conservé également quand j'ai travaillé chez Simca, puisque je ne gagnais pas assez, à mon avis, que finalement j'ai conservé ici, où je gagne mieux ma vie quand même, mais où j'ai encore du temps. Et donc, j'ai fait toujours ça. Alors, j'ai fait simplement une erreur l'année dernière pendant les vacances. J'avais trop de devoirs, trop d'élèves, puisque j'en avais 350, avec 6 devoirs par élève, enfin, étalés sur 6 semaines normalement, mais enfin, en réalité, c'est pas bien étalé. Et alors, ça me prenait 5 ou 6 heures par jour. Là, c'était largement de trop. Donc, je ne recommencerai pas ça. Alors, au point de vue loisir, depuis, il y a une chose que je regrette, c'est qu'on ait eu un enfant assez rapidement au bout d'un an de mariage. Parce que moi j'aurais préféré finalement exprès. J'aurais préféré qu'on soit un an et demi ou deux ans jeune marié, sans enfant. Ce qui nous aurait permis, d'une part, ma femme de terminer ses études sans problème. Parce que là, l'année dernière, elle était enceinte quand elle a passé. Enfin, elle était sur le point de coucher quand elle a passé ses examens. Puis cette année, ben, l'enfant vient s'occuper, ça l'occupe, ça l'empêche de travailler. Et puis, j'aurais bien voulu qu'on continue à aller en théâtre ou aller un petit peu partout. Alors évidemment, on peut toujours le faire, mais il faut donner à manger, il faut conduire chez les grands-mères, ma mère et ma belle-mère qui sont très gentilles, qui nous garderaient tant qu'on veut. Puis il faut le reprendre. Seulement lui, le matin, il nous réveille à 6h30, donc à ce moment-là, on tient plus le coup, et puis ma foi, on est quand même, même sans sortir, dans les circonstances actuelles, on est quand même un peu fatigué, et puis finalement on sort pas beaucoup. Alors à Orléans, Il y a, je pense qu'il y a pas mal de choses. Pourtant, maintenant, enfin, il y a des concerts, il y en a toujours eu. Il y a le cinéma, il y en a toujours eu. Le théâtre, ben, il y en a de plus en plus. Il y a la maison de la culture à laquelle j'ai, depuis la, à laquelle ça fait 2 ans que je dis je vais m'inscrire, puis on n'est toujours pas inscrit, on n'y a jamais été. Et puis, ben, il y a des conférences, ciné-club. Je crois que ça, il y a quand même pas mal de choses. S'il n'y a pas d'ambiance pour les étudiants, si vous voulez, au point de vue loisir, il y a quand même pas mal de choses qui manquent. C'est des boîtes pour aller lancer à l'heure même. Il y en a un petit peu dans la région, mais enfin, c'est pas terrible, je crois. Ce qui explique que, dans le temps, j'ai failli monter une boîte dans la maison de ma mère, à la cave. Enfin, j'avais des idées toujours de monter des tas de trucs qui n'avaient pas, qui ne sont pas sortis. C'est le pressing qui est sorti. Alors, d'un point de vue loisir, bah oui, sinon...
Vous prenez quand même des vacances.
Alors, on a les vacances, oui, surtout ici. Là, j'étais en vacances toute la semaine dernière, mais pratiquement, je me suis pas mal occupé du magasin. On a en plus, nous, un gros avantage, on a 1 mois et demi de vacances, de toute façon.
Ah.
Au lieu de 4 semaines, normalement. Plus 8 jours à Noël, 8 jours à Pâques. Et ça fait beaucoup. Alors, on a été 8 jours au ski. J'ai préféré prendre ces vacances au ski le plus rapidement possible, parce que je me disais, ça sera toujours ça de dépenser, non pas de dépenser, mais enfin, on les aura prises. Ma femme avait envie d'y aller. Moi aussi, d'ailleurs, parce qu'on avait voté l'année dernière qu'elle était enceinte. Parce que je suis pas sûr de pouvoir prendre à cause du magasin des vacances cet été. Du financier toujours, mais c'est limitatif. Alors sinon, ben moi je fais, dans le temps j'étais sportif longtemps. Là on fait encore de la voile. On en faisait beaucoup avant de se marier. Et puis depuis, ben avec le gamin c'est toujours pareil. Il faut le club de voile est à 50 km d'Orléans, donc il faut partir pour toute la journée. Oui. Avec les migrants, leur temps, enfin, c'est une expédition. Sinon je joue au tennis, mais je joue presque plus. Je joue du piano, ça ne joue pas beaucoup.
Pour revenir à quelque chose que vous avez dit il y a quelques minutes, vous avez dit que vous appartenez à la bourgeoisie d'Orléans.
Mais
qu'est-ce que c'est au juste la bourgeoisie d'Orléans?
Ben, c'est un peu une classe sociale à laquelle je ne suis pas spécialement fier d'appartenir. Hein. Je vous ai dit ça pour parce qu'on parlait de l'avenir de notre enfant. J'ai jamais eu non plus spécialement conscience de faire partie effectivement de cette bourgeoisie, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la bourgeoisie orléanaise.
Ah bon?
Ah oui. Il y a la bourgeoisie aristocrate, qu'on connaît un petit peu, mais enfin qui constitue un milieu non pas fermé, mais enfin où les gens se connaissent, c'est un groupe de relations.
Quel genre d'aristocratie? Quel genre?
Ben, sont des gens avec des noms à particules, hein, des monsieur de quelque chose, qui en général font un petit peu de genre. Il y en a d'autres qui font du genre, hein. Pas que, mais enfin, ceux-là en font, et les filles se marient avec un contrat à la dans le journal d'Orléans, mariage avec le baron un tel de quelque chose, d'autre chose, bon, bénédiction par le père de je ne sais quoi. Alors, moi j'en ai connu quelques-uns après avoir été en classe, mais enfin, on les connaît pas beaucoup. Nous, notre milieu, c'est surtout, en fait, c'est un milieu qui nous vient des connaissances de nos parents, qui ne connaissaient pas grand monde d'ailleurs, Orléans, mais qui ne sortaient jamais. Et ce sont des gens dont on a fait connaissance, enfin, de notre génération, des jeunes de notre âge, on a fait connaissance au club de tennis, pour la plus grande part. Au club de tennis, quelques-uns en classe, mais surtout au club de tennis, vraiment. Et puis, un peu par ma mère, qui était professeure de maths, Alors, moi j'ai deux frères et une sœur, dont un frère qui a un an et demi moins que moi, donc on a toujours été invités un peu ensemble, et puis, enfin, en réalité, notre milieu, c'est un milieu de surprise party. Alors, il y avait un groupe, de temps en temps, on voyait des tas de gens qu'on ne connaissait pas, on était invités, bon, ben, il y avait des garçons dans les villes de province, on recherche toujours un peu les garçons pour marier les filles. Donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Alors, ben, ces gens qu'on connaît, ben, il y a des fils, des enfants de commerçants, il y a de profession libérale, d'avocats, d'assurance, d'autres, on ne sait pas exactement ce que font les parents, quoi, ils sont peut-être ingénieurs, docteurs, beaucoup de docteurs, beaucoup de docteurs. Puisque le club de tennis on était, c'était un club où il y avait la plupart des docteurs d'Orient qui jouaient au tennis. Et ça y est, voilà, notre catégorie. Alors je pense qu'après, il y a une autre catégorie qu'on ne connaît pas, enfin qu'on connaît peu, dans laquelle il m'est arrivé d'être invité deux, trois fois, et qui n'était pas notre genre, vous voyez, où notre genre était non pas strict, mais enfin il y avait toujours deux, trois gars qui faisaient les pitres, dont on met de l'ambiance, au moins, mais on n'avait pas le genre suivant dont je parle, c'est plus simple, un peu plus simple. Hein, si on met la bourgeoisie aristocratique en haut, nous au milieu et les autres en dessous, avec des gars qui se mettaient à chanter, qui vous grattaient la guitare, c'est pénible toujours, hein, tu fais une sortie, ça casse, l'ambiance à mon avis. Surtout que je pense particulièrement à un qui veut imiter Brel ou un autre qui veut imiter tel autre, c'est toujours un peu casse-pied. Puis alors il y en a toujours qui trouvent que c'est bien, donc ils recommencent et on n'en finit pas. Et puis, enfin, alors donc c'est un petit peu plus simple, hein, si vous voulez. Tout un ensemble qui se voit, les gars, nous par exemple, on était tous à peu près en costume, là, bah, y a pas mal de gars en chemise polo, c'est plus décontracté peut-être aussi, on est peut-être à nous un peu trop guindé, enfin, c'est pas un élément, enfin peut-être que vous, ça vous intéresse d'avoir cette... Il y a certainement une petite ségrégation entre ces trois catégories.
Alors, si la ségrégation, c'est parce que ce sont en train de compter sous-catégories.
Ce sont des sous-catégories qui se sont créées par connaissance.
Oui.
C'est bien évident. Dans une classe, le fils d'industriel, c'est peut-être encore une autre catégorie, ça, des industriels que je ne connais peu. Mm-hmm. Je ne sais pas avec qui ils sont. Eh bien, je ne sais pas, moi, un fils de médecin va. Il y a toute une question de moyens qui font que bah, le fils de docteur Intel va être invité chez le docteur Intel, parce qu'on sait que c'est le docteur Intel. Bon, bah, un fils de professeur va être invité chez un autre professeur, ou bien chez... Il y a les connaissances des parents qui jouent, et puis ce sont des petites catégories, qui sont des sous-catégories qui se sont créées comme ça.
Et est-ce qu'entre la bourgeoisie et les autres classes, les différences sont...
Alors là...
Quelles seraient les autres classes, les autres catégories?
Ben là, j'ai jamais réfléchi spécialement à la chose. Je pense quand même qu'il y a une... On peut mettre, par exemple, des commerçants, des instituteurs. Vous voyez, les instituteurs, il me semble que c'est un milieu que je connais pas, parce que ce sont des gens qui se mélangent difficilement à la bourgeoisie, en général. Évidemment, ils ne gagnent pas beaucoup. Ils sont peut-être un peu sous-estimés. Les petits commerçants, alors tout un tas de gens qui font partie dont les enfants font partie de la classe qui s'élève. Et maintenant, je me rends compte. On se rend compte de la différence entre ces enfants-là quand on est dans une même classe, entre ces enfants-là et soi-même. On s'en rend compte sans savoir pourquoi dans la classe. Classe école, hein.
Oui.
Mais on se rend compte, et maintenant qu'on voit la raison. Parce que effectivement, j'ai jamais pensé et réfléchi pourquoi je connais plus, je sympathise plutôt avec un tel qu'avec tel autre. Alors, les ouvriers, après il y a les ouvriers, je pense, que je connais pas tellement, qui sont une autre catégorie. Alors, je crois que ce qui fait la différence, c'est l'école, beaucoup, parce que l'école, c'est un milieu, surtout quand on fait des études jusqu'au bachot, etc., c'est un milieu que l'on suit, où on voit bien, on se dit, bah oui, moi je suis écolier, ma mère me donne 2 francs par semaine pour m'acheter, mettons quand j'ai 14 ans, alors j'avais même moins, moi, mais pour acheter n'importe quoi, des cale-pieds, arranger mon vélo, tout ce que vous voulez, alors que tel homme que je vois, il a déjà une mobilette, ou il gagne sa vie, et on les envie souvent à cet âge-là. Et puis ma foi, on les voit quand même pas beaucoup, parce que, du moins dans mon cas, parce que moi j'allais jamais spécialement prendre un pot à un café à Orléans, j'étais tellement sportif que j'allais toujours jouer au foot après la classe, et je savais bien qu'il y avait des gens qui avaient de mon âge qui avaient beaucoup, pas beaucoup d'argent, mais beaucoup par rapport à ce que j'avais, mais ça ne m'a pas trop marqué, et ces gens là ben, on ne les connaissait pas. Alors moi j'en ai connu quelques-uns, quand même par le football justement, qui est un sport très populaire en France. Et évidemment quand on joue au foot, on n'a pas dit c'est le fils d'un tel ou c'est le fils d'un tel. Vous voyez, j'ai retrouvé justement récemment, depuis que je suis ici, un gars avec qui j'avais joué au football, on jouait le jeudi après-midi pendant 3 heures, je ne sais combien. Je l'ai retrouvé, il est plombier. Et c'est lui, il est une entreprise qui a travaillé sur ce bâtiment, enfin sur toute la faculté des sciences. Il m'a pas reconnu, enfin moi je l'ai reconnu, on se tutoie comme avant, et il n'y a aucune... Enfin moi je ne suis pas du tout du... Il y a des gens, je suis persuadé, avec mon José Orlanès, qui n'auraient pas... qui évitent de serrer la main à un ouvrier, évidemment quand on bricole on n'a pas les mains propres, ou bien de... qui gardent les distances. Alors, non, moi je ne suis pas comme ça, je veux pas m'intituler... Je ne suis pas du tout proche, je ne fais pas d'efforts pour retrouver des gens, des ouvriers que j'ai pu connaître. Enfin, si je les rencontre, si je les reconnais, je ne fais pas semblant de pas les reconnaître. Ça peut arriver. Alors après, il y a peut-être une catégorie, les agriculteurs, là, je ne connais pas du tout, mais enfin, c'est pas Orléans même.
Non, ce serait par définition en dehors de la ville.
Oui, ce serait en dehors de la ville.
Bon, voilà. Merci. Du premier acte.
Suivante, je trouvais que le SMIG était vraiment trop faible et que il y avait beaucoup de gens qui exagéraient. À ce moment-là, j'ai été un petit peu pour la pagaille, évidemment. J'en suis revenu. Et je crois que maintenant, on n'y reprendrait pas. Alors à ce moment-là, je n'ai pas aimé les idées du spectacle du monde, qui évidemment ont été nettement plus lucides que moi. Ils n'ont pas été... Enfin, ils avaient une vue plus haute des fêtes. Et ils ont tourné un peu cette révolution en dérision, ils avaient des bonnes raisons d'ailleurs, qui eux représentent des milieux industriels et de haute bourgeoisie, ou bien de cadres très supérieurs. Et ma foi, maintenant, je reconnais que leurs idées d'abord, elles avaient une grande continuité, alors que moi, j'ai eu une réaction subjective.
Oui. Question par question, votre journal habituel, La Revue du Centre, est-ce qu'il contient une rubrique sur le langage?
Non.
Bon. Vous ne faites pas de mots croisés.
Je ne fais pas de mots croisés.
Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Alors, ça c'est... Alors, je ne sais pas vous rappeler plus ce que pense ma femme. Moi j'ai appris le latin. J'en ai toujours voulu, non pas à mes parents, mais j'en ai voulu au latin lui-même. C'est-à-dire que on faisait 5 heures ou 6 heures de latin par semaine. auquel je ne comprenais pas grand-chose parce que je ne faisais pas d'efforts. J'ai jamais fait tellement d'efforts dans mes études. Et j'ai failli être calé au bachot à cause du latin.
Ah, oui.
C'est pour ça que j'en ai voulu au latin.
Oui.
J'estime d'autre part, je ne suis pas spécialement littéraire. Hein. Je lis des livres, je lis des livres de poche. On pourrait me la reposer après.
Oui.
Mais je sais pas, je ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas littéraire. Quoi. Je n'ai jamais eu. Vous voyez, comme science d'écrire. Bon, moi je lis un roman, bon, moi, si le roman me plaît, tant mieux, ma foi, s'il ne me plaît pas, la plupart du temps je vais quand même jusqu'au bout, puis je dis ça ne m'a pas plu, puis c'est terminé. J'ai une analyse, je ne fais pas d'analyse. Et en français j'étais nul également. Alors le latin, j'estimais, pour mon cas personnel, que ça ne m'a rien apporté. J'entends, j'ai un frère qui lui c'est le contraire, il est très scientifique également, mais il prétend que ça. Enfin, tous les arguments qu'on donne en général pour le latin, c'est-à-dire que c'est la base du français, que ça donne des racines, enfin, il y a des racines des mots, tout un tas de trucs. Moi, étant donné que ça ne me plaisait pas du tout, j'ai quasiment rien retenu, à part Rose à la rose, enfin.
Oui.
Et. Enfin, je suis encore capable de traduire un peu le latin, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois. Parce que maintenant, je l'ai mieux assimilé, si vous voulez, maintenant, que sur le coup, je n'assimilais pas du tout.
Oui.
Mais je continue à penser quand même que faire 5 heures de latin par semaine, compte tenu du travail idiot que ça nous faisait faire, c'est-à-dire rechercher les traductions, apprendre des récitations par cœur, qui nous servaient à rien, enfin, et dont je pense qu'ils m'ont servi à rien, et bien, ça. C'est avec ça que jusqu'ici, ben, je suis content en latin.
Ah bon.
Je suis content. Oui. Et je pense que, malgré tout, c'est une. C'est pas le latin lui-même qui est en cause, c'est peut-être la pédagogie, et puis l'enfant lui-même. Si l'enfant ne s'intéresse pas à ce qu'on lui raconte, bah, quand lui apprenne du latin, quand lui apprenne des maths, quand lui apprenne de l'histoire, de la géographie, il ne retiendra rien. Il ne retiendra pas. Et moi, par exemple, je m'intéressais à l'histoire, bah, je retenais l'histoire. Les maths, ça m'intéressait un petit peu parce que j'avais des facilités.
Oui.
Mais le latin, ça ne me plaisait pas du tout, j'ai rien retenu. L'électronique, c'est pareil, ça ne me plaisait pas.
On va toujours prêter une langue. Le franglais, qu'est-ce que vous en pensez?
Le franglais.
Bah. Est-ce que vous êtes pour ou contre ou indifférent?
Je ne suis pas indifférent, mais je ne peux pas dire si je suis pour ou contre. c'est la quatrième position. Je crois que on devrait, ça serait bien d'éviter qu'en France on introduise beaucoup de mots anglais. C'est peut-être d'autre part, il y a tous les avantages de la possibilité avec un mot anglais, souvent, auquel on donne peut-être un sens différent de celui qu'il a originellement, d'arriver à exprimer une grande phrase. Mm-hmm. J'ai pas d'exemple à l'esprit, mais enfin, il y a des choses qu'on exprime avec un mot anglais, je sais pas moi, dans
l'Illinois. Comment s'appelle l'affaire que vous avez montée?
Pressing.
Voilà.
Un mini pressing. Alors, tout ça, c'est un mini. C'était pour faire un peu quelque chose de mode.
Oui.
Puis c'était petit, et je pense que c'est un mot, quelque chose dont on se souvient, je crois.
Oui.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, par exemple, dans ce cas-là, je crois que nettoyage à sec, là, ça. C'est quelque chose qui. Bon, ben, nettoyer la sec, oui, c'est français, d'accord. Ça fait 3 mots, c'est long. Et puis, ça fait pas moderne. Hein? Et justement, au point de vue commercial, moi j'ai vu, depuis que je m'intéresse à ça, on voit des teintureries, des gens qui continuent à se mettre, à s'appeler teinturerie Intel. Ben, je dis, ils devraient faire l'effort de changer leur raison commerciale et de mettre 7 pressing, ou press-net, ou tout ce qu'on veut, avec pressing. Et ils augmentaient leur chiffre d'affaires de 30%.
Enfin, là, il y a un certain aspect spécial, puisque
C'est moins du vocabulaire que des sigles, en fait, des titres.
Oui.
C'est moins spécial. Mm-hmm. Mais si c'est dans le langage courant.
Par exemple, cocktail ou... Ben, je crois qu'il y a un snobisme du français, enfin ça, peut-être ça existe dans les autres, chez les autres peuples, il y a un peu un snobisme d'employer des mots étrangers pour remplacer un mot français, qui n'existe pas forcément. Hein, oui, je vois pas, ben, par exemple, oui, je pense à cocktail, on ne sait pas comment traduire ça, enfin il n'y a pas de mot français. Ou bien alors il y a des mots comme ça.
La seule alternative que je vois, c'est drink.
Oui. C'est le même genre.
Et est-ce que, enfin, il y a tout de même, vous avez parlé des différences entre les groupes sociaux.
Oui.
Est-ce qu'il y a des différences entre leur façon de parler?
Oui, je crois. Je crois. Comment?
Elle serait importante.
Non, sans des tournures de phrases qui sont désagréables, qui sont pas bonnes, et qui font que les personnes qui n'utilisent pas ces tournures de phrases, dont je vous donne deux trois exemples, se prennent un petit peu, se disent ben moi je suis pas de cette classe là. Mmh. Hein, par exemple, je vais au coiffeur, ben non. Hein, on se force pour dire je vais chez le coiffeur. Enfin, on se force, on essaye de ne pas prendre cette mauvaise habitude.
Oui.
Ou bien j'ai gagné au tiercé en rapport à ce que j'ai bien joué, ou enfin, des tournures de phrases affreuses, quoi.
Oui.
Ou bien malgré que, dont on ne sait jamais si ça se dit ou si ça se dit pas, malgré que
ça,
j'ai...
C'est chez Bourriac, mais c'est pas une raison. Hein.
Voilà. Alors, ben, je crois que les personnes qui n'emploient pas ces mauvaises tournures... se disent en un peu en elles-mêmes, moi je ne suis pas. Moi je suis au-dessus.
Tout comme en anglais. Est-ce que selon vous les gens parlent d'une façon générale de mieux en mieux ou de plus en plus mal ou est-ce que ça n'a pas changé?
Alors là, je pense quand même qu'on parle de. Ça s'améliore certainement. Mm-hmm.
Comment est-ce que vous expliquez ça?
Pourquoi? Eh bien parce que les gens lisent plus, même s'ils lisent des bêtises, comme des romans photos ou des nous deux confidences, hein, tous ces machins-là, c'est quand même écrit correctement en français. Oui. D'autre part, je crois que c'est lié au niveau de vie qui augmente.
Oui.
Parce que même si on lit que de la publicité, si on ne lit du moins, vous voyez, que ce qui est écrit à la télé ou au cinéma, les journaux, eh bien, je crois qu'on lit plus. Et puis, malgré tout, il y a quand même pas mal de gens qui cherchent à s'élever, qui, s'ils ne font pas d'études, font quand même des efforts pour éviter de parler comme un concierge de 1920.
Oui. Par vos connaissances, quelle est la personne qui parle mieux français? Qui parle meilleur français? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez...
Non.
Non.
Je crois là tout de suite, je connais par exemple quelqu'un qui sait très bien raconter des histoires, en général amusantes, c'est un docteur.
D'accord.
Mais Si, je pense quand même qu'il parle effectivement, vous voyez, qu'il parle un bon français, parce que quand il raconte une histoire, ce n'est pas cousu de alors, et puis après, et puis alors, et puis alors, et puis alors, et puis alors. Oui. C'est ce qu'on dit toujours en français.
Et est-ce que parmi les gens que vous êtes amené à entendre, même sans les connaître?
Des gens que j'entends sans connaître?
Oui. Enfin, je ne sais pas, peut-être... de notables comme vous en rendez.
Oui, alors par exemple, la radio, les gens entendent la TSF. Oui, on voit des hommes politiques qui parlent bien, mais alors il y a deux choses que je ne différencie peut-être pas forcément. C'est d'une part leurs idées politiques qui sont bien exposées. Par exemple, quand Edgar Faure a exposé sa réforme, j'ai trouvé que c'était très bien. Je ne peux pas vous dire s'il a vraiment bien parlé français. Je crois que Giscard d'Estaing que j'avais vu à la télé, enfin, puisque apparemment quand j'habitais chez ma mère, enfin, on avait la télé, là je ne l'ai pas. Eh bien, c'est un gars qui parle pas mal, un petit peu un parler un peu snob, un petit peu, non pas compassé, mais enfin, un petit quelque chose. Si j'ai quelqu'un d'autre également qui parle très très bien, c'est le recteur ici,
ah, oui.
Le recteur Antoine.
Oui, Antoine.
Antoine, oui. Alors ça c'est un... Mais enfin, c'est toujours pareil, il y a tout un élément que je ne différencie pas de... Il est toujours souriant, il est aimable avec tout le monde, que ce soit avec une femme de ménage ou avec un ministre. Il a une classe terrible, ce gars-là.
Et Antoine est d'ailleurs un professionnel du langage.
Oui, certainement.
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot, si un néologisme ou une expression?
Eh bien, je crois que c'est la... je crois que c'est l'académie, les académiciens. Mais... disons qu'ils en sont toujours à la lettre C, et depuis 10 ans, ils en sont toujours à la lettre C.
Oui.
Autrement, je ne crois pas qu'on s'occupe de langage, si ce n'est, alors là je vais vous dire une bêtise, si ce n'est, n'écoutez pas Europe numéro 1.
Sans cesse.
Sans cesse. Alors si ce n'est, comment il s'appelle, le dimanche, dans les kangourous n'ont pas d'oreilles et n'ont pas de... C'est pas Francis Blanche, non, mais c'est monsieur. Enfin, c'est dans l'émission de Francis Blanche, mais c'est l'autre, il s'appelle. Ah, je sais plus.
Enfin, je
m'étais. Oui, non, enfin, c'est de la rigolade, puisque c'est le. C'est soi-disant le représentant du ministère de la Culture, monsieur. Ah, je sais plus, comment j'en trouve pas.
Comme pastiche, c'est très convaincant.
Oui. Alors, oui, ben là, c'est une chose dont je ne sais pas, du point de vue esprit, vous voyez, si ça peut vous intéresser. Je suis. J'aime assez ce qui est un peu amusant, du politique. Oui. Vous voyez, j'ai lu longtemps, enfin longtemps, je lisais Harakiri,
oui.
Journal de la méchant. Je ne le lis plus. C'est pas parce que je ne veux plus le lire, enfin, parce qu'on n'achète pas 50 000 journaux.
En tout cas, je vois que la langue française se dégrade de plus en plus, que c'est une honte, etc. Oui.
Je sais pas, je ne sais pas. Je dois dire, vous voyez, c'est un quelque chose qui n'entre pas dans mes préoccupations. Évidemment, il est certain que dans le temps, la culture était réservée à aux intelligences supérieures, chose qu'elle n'est plus actuellement. Et le volume donc de la chose écrite et de la chose parlée ayant augmenté considérablement, y a certainement un abaissement vers la moindre qualité proportionnée à la masse totale.
Oui.
Ce qui n'empêche qu'il y a quand même certainement toujours la même proportion, enfin le même nombre de personnes qui parlent très bien français ou qui écrivent très bien français. Ce qu'il y a, c'est que étant donné que, si vous voulez, on ne peut pas dire que le français soit bien écrit dans les bandes dessinées ou dans les feuilletons. Alors ça fait du volume de lecture, du volume d'écriture, qui... On parlait de... Enfin, oui, du français.
Oui, toujours au sujet du français, si vous trouvez qu'il serait utile de contrôler la façon de s'exprimer des speakers de la radio, de la télévision.
Ah oui, là je crois que ça devrait être, enfin contrôler, oui, d'éviter qu'ils fassent des tournures de phrases qui soient mauvaises, ou bien des liaisons. Je pense que... Non, il y avait une chose qui m'a choqué à la radio, c'est qu'on parle encore beaucoup dans l'ancien front.
Ah oui.
Et même à la radio d'État de temps en temps. Alors ça, je trouve ça absolument anormal parce que ça entretient la confusion. Évidemment, dire vous allez gagner 1 million de prix dans un concours, ça fait de l'effet. 10 000 francs, ça fait moins d'effet. Mais 10 ans après la mise en place de la réforme, je trouve que c'est vraiment anormal. Pour le langage, ben, je ne suis pas comme certaines gens, vous voyez, dont on voit de temps en temps le courrier des lecteurs, Madame Intel ou Madame Jacqueline Cora, par exemple, la speakerine de la télé, a dit ou a traité telle chose, a employé un mot à la place d'un autre. Ma foi, je ne suis pas branché là-dessus.
Est-ce que vous avez des opinions sur la
l'efficacité de l'enseignement de l'orthographe.
Eh bien, je crois oui quand même qu'il faut, bien qu'on ait en France une orthographe difficile, il faut faire en sorte que les écoliers aient une bonne orthographe. Je pense par contre qu'on insiste peut-être de trop sur les analyses, c'est-à-dire les compléments d'objets directs, les compléments de lieux, de circonstances. Mais par contre, l'orthographe, c'est vraiment quelque chose qui joue quand quelqu'un vous écrit une lettre pour solliciter une place. Enfin, quand vous êtes amené à écrire, si c'est cousu de faute d'orthographe, c'est vraiment... Enfin, ça juge... C'est un élément de jugement sur la personne.
Oui. Et enfin, dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école?
En sport. C'est malheureux. Enfin, en véritable matière, ben c'était surtout l'histoire, je crois, parce que l'histoire m'intéressait. Ensuite, on peut mettre les maths, parce que j'avais des facilités, mais comme je travaillais pas beaucoup, eh bien, à la fois, les résultats n'étaient pas formidables quand même.
Oui, enfin, vis-à-vis de vous, ça marchait, c'est l'important.
Ça marchait,
il
n'y
avait
oui,
pas le rejet qu'il y avait dans le candidat.
Oui.
Bon, est-ce que habituellement vous portez quelque chose sur vous pour écrire?
Oui, enfin.
Quel genre, stylo, crayon?
Eh bien, actuellement, j'ai eu un stylo à plume et maintenant j'ai presque toujours un crayon à billes.
Oui.
Bic.
Forcément. Vous avez eu un stylo à plume.
Oui.
Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez possédé votre premier stylo à plume?
Oui, c'était à la fin de la 7e. On avait dû acheter ça. Et un autre stylo à plume qui m'avait beaucoup marqué, c'était, je crois, en troisième, un stylo avec plume, une plume recouverte, plume protégée, avec uniquement le petit bout qui dépassait. J'en avais envie beaucoup et vous voyez, ça valait pourtant pas grand-chose, mais enfin, on n'avait vraiment pas d'argent.
Oui.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai ce point de vue financier maintenant très important dans ma façon de penser ou de juger beaucoup de choses.
Oui, quand ça manque, en quelle
sorte ça manque. Oui, alors j'ai beaucoup bricolé, j'ai vendu quand j'étais très jeune, on récupérait des vieux journaux qu'on allait revendre aux poissonniers, vous voyez, des étapes de petits trucs comme ça pour gagner ma foi pas grand chose.
Quand est-ce que vous avez écrit la dernière fois?
Une lettre.
Ou en général?
En général,
Ou ce matin même, peut-être.
Ce matin, oui, j'ai fait une lettre ce matin. Mmh. Sinon, ça c'est une lettre pour le travail. Sinon, j'ai écrit récemment à un camarade qui voulait monter un magasin comme moi. Alors, j'ai fait une lettre de 7 pages.
On reviendra à ça.
Ouais.
Oh, bon, on a le temps.
Ah oui, on a
attendez, est-ce que d'habitude vous portez sur vous un agenda ou un carnet?
Oui, un agenda, j'ai un agenda.
Oui. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un de vos connaissances qui habitait à 5 km, est-ce que vous préférez téléphoner ou vous déplacer ou...
Je crois que je téléphone. Non, je téléphone, j'écris très peu pour ça. Je téléphone ou je me déplace avec la voiture. Compte tenu du fait que je me déplace facilement entre la source et Orléans, eh bien, je fais un détour pour aller voir la personne, très souvent.
Est-ce que vous trouvez qu'il est très important d'avoir une belle écriture?
Je crois, oui. Mais enfin, je suis pour une écriture dynamique et lisible, et contre une écriture style instituteur. Très bien pour un instituteur qui doit montrer aux gens, enfin ses écoliers, comment écrire. Mais je n'aime pas son écriture et je sais que j'écris mal.
Ah bon? Est-ce que vous seriez très favorable ou favorable ou défavorable ou très défavorable à une réforme de l'orthographe?
Je ne sais pas.
Ah, mais
je
encore.
Ne sais pas.
Cinquième position.
Parce que je crois que l'orthographe actuelle est très difficile. Je serais peut-être conservateur, puisque moi je n'ai pas de problème du côté de l'orthographe. J'en fais quasiment pas de faute d'orthographe. Oui. Si ce n'est de temps en temps une faute d'inattention.
Oui.
Mais j'en sais pas.
Enfin, entre vous et votre femme, qui est-ce qui écrit le plus souvent aux amis communs?
C'est moi. Mmh.
Et à votre famille, si ça...
À la famille, c'est moi également.
Mmh. À la famille de votre femme?
Ah ben là, c'est...
Oui.
Et qui est-ce qui se charge des papiers administratifs?
C'est moi.
Oui. Maintenant, des questions odieuses. Ah. Qui, de vous deux, à votre avis, possède la meilleure orthographe? Ou est-ce que c'est égal?
Eh bien, je crois que c'est égal. Mm-hmm. C'est égal, oui. Je ne fais pas de faute d'orthographe.
Et la plus belle écriture?
Elle a une écriture qui ne me plaît pas, mais je crois que c'est plus lisible que moi.
Ah bon. Et qui parle le meilleur français? Ou pas de distinction?
C'est-à-dire que moi, je suis souvent un peu grossier, et par plus, je suis un petit peu grossier par réaction pour me différencier des autres, des fois, oui. Pour choquer un peu. J'en suis resté là.
Mmh. Pas d'interrogation.
Oui.
Et qui écrit dans le français? Ou est-ce que il n'y a pas de différence?
Je crois que maintenant, depuis que j'ai eu pas mal de lettres à faire, j'écris mieux. J'écris mieux que... oui. Par contre, construire une lettre, par exemple la fameuse lettre de cette page, il n'y avait pas tellement de plans. Parce que c'est très délicat d'exposer une affaire complète avec vraiment des séparations, même pour un esprit scientifique.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de lettres que vous écrivez en moyenne par mois du côté de travail?
Du côté de travail, oui, je pourrais avoir une idée. Ça dépend, mon travail varie. Au moment où j'ai embauché du personnel, j'en ai écrit pas mal. Mmh. Des lettres de refus ou d'acceptation.
Oui.
Sinon...
Remettons d'une autre façon, est-ce que dans votre travail, il arrive qu'il y a... Il y a une journée au cours de laquelle vous n'écrivez absolument pas de lettres.
Ah oui, très souvent. Très souvent parce que c'est lié au fait que mon service démarrant, j'ai pas de moyens financiers. Oui.
Est-ce que en dehors du travail, vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Oui, ça m'est arrivé auparavant, mais maintenant. Je les garde pas très longtemps. Hein. Je garde l'adresse.
Oui.
Je garde les cartes postales. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi.
Question que je vais pas poser d'ailleurs. Quand vous écrivez à vos amis, par exemple, de cette fameuse lettre de cette page, est-ce que vous faites un brouillon?
Non.
Non.
Là, je n'ai pas fait de brouillon.
Vous faites attention à l'orthographe?
Ah oui, oui. Mais par contre, je n'ai pas relu. Mm-hmm. Ce qui fait que certainement, il y avait quelques fautes.
Qu'est-ce que vous employeriez le plus volontiers? Un stylo encre ou stylo bille, stylo feutre?
Eh bien non, le feutre, je trouve que c'est pas pratique. J'emploie le crayon à bille pour le moment parce que je n'utilise plus de crayon à encre, de stylo à encre. J'ai l'encre sèche. Pour l'encre. Pourtant, je trouve que c'est mieux.
Comme à l'encre?
Oui.
Et quel type de papier pour votre correspondance personnelle?
Ah, mais j'ai du papier... Vous voulez que je vous montre?
Non,
c'est un papier... Non, c'est un format lettre. Une enveloppe allongée.
Oui.
La feuille se plie en trois à l'intérieur. Et j'ai pris du papier gris.
Ah oui.
C'est la marque Nobilis, mais enfin, je ne sais pas si ça a un gros intérêt.
On n'est pas là pour des sondages publicitaires.
Non.
Et les lettres de travail, est-ce que vous faites des brouillons?
Oui, la plupart du temps.
Là, évidemment, je suis en train de taper à la machine par un secrétaire.
Non, très peu parce que je n'ai pas de secrétaire.
Ah non?
Alors, de temps en temps, oui, je fais taper à la machine, mais enfin, ça me retarde une journée, alors... Très souvent, je ne le fais pas.
Est-ce qu'il vous arrive parfois d'utiliser du papier à carreaux?
Ah, jamais.
Jamais?
J'en ai horreur. Je crois qu'en France, on juge, je n'utilise pas non plus de papier transparent, enfin de papier avec des lignes marquées pour mettre derrière, vous voyez.
Oui.
Je crois que c'est un élément de jugement,
oui.
Certainement au point de vue graphologique, mais enfin au point de vue même de la personnalité. Enfin, quelqu'un qui écrit sur une des lignes, un papier avec ou des carreaux, ou même que des lignes, est tout de suite catalogué, je crois, dans notre milieu.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre femme?
Non, pas trop.
Non. Enfin, est-ce qu'il vous arrive de la reprendre?
Oui, de temps en temps, c'est rare.
Est-ce qu'il y a des choses dans votre parler à vous qui agacent votre femme?
Certainement, oui.
Ah. Par exemple.
La grossièreté.
Ah bon. Dans la polémique. La chose.
Et elle ne me reprend pas alors qu'elle pourrait. Enfin, elle aurait beaucoup plus d'occasions que moi.
Ah bon.
Tout à fait.
Alors, votre fils, évidemment,
il a 8 mois.
Il n'y arrive pas encore
à de cause des problèmes parler, que non, non,
bon. Est-ce que vos parents faisaient attention à votre façon de parler?
Ah oui, beaucoup, oui. Mmh. Oui, je crois.
Est-ce que c'était surtout votre père ou votre mère?
Mon père, surtout.
Mmh. Quel genre de choses?
Ah ben, la main grossièreté.
Ah bon?
Donc ça n'a pas donné les résultats que l'on attendait, peut-être.
Ça peut être produit, ce résultat.
Peut-être.
Est-ce qu'il prenait des sanctions?
Ah oui. Mmh. Oui, il était brutal.
Ah. À quel point?
Ah ben, c'était des coups.
Ah bon?
Ah oui, oui. On était élevé comme ça, et c'était une chose... c'est certainement ce qui m'a empêché de continuer dans la carrière musicale, parce que lui était un professeur de musique, n'ayant pas pu faire une carrière musicale de virtuose, a voulu reporter ça sur moi, qui était très doué, paraît-il. Donc je savais lire les notes avant de savoir lire autre chose, et à 8 ans je jouais de l'orgue, à 9 ans, j'étais en cours supérieur, en conservatoire, alors que c'est l'âge auquel on rentre au cours des préparatoires. J'ai joué des concerts, j'ai dirigé un orchestre également, et puis alors, je faisais donc beaucoup de travail avec mon père, il n'était pas patient, et puis j'étais peut-être en l'air, inattentif, toujours prêt à penser à autre chose, enfin, parce que j'étais renfermé dans ses études. Alors moi, j'ai joué au football, c'était plutôt là que je me dirigeais. Alors, la moindre fausse note, c'était une claque.
Ah bon.
Ça m'a dégoûté, et vers 11 ans, on a un peu arrêté.
Oui. Okay. Quand vous étiez à l'école, l'école primaire, est-ce que votre instituteur faisait attention à votre façon de parler?
Pour répondre à cette question, oui, je crois que c'est trop éloigné.
C'est sans importance, de toute façon.
Je me souviens pas.
Alors, maintenant, la vitesse du son.